C'est pas pour dire. Une émission de la compagnie La Lune Rousse, présentée par Charles Cécile. Au XXIe siècle, qu'est-ce qui pousse encore les gens à dire ou à écouter des contes, des poèmes, des épopées, des histoires de bonnes femmes? Quand les déesses s'appellent Nintendo et que Midas change votre peau, autant du jet lag, des Mastercard, de la com, de la pub, au XXIe siècle quoi. C'est pas pour dire, mais toutes ces histoires, à quoi ça sert? C'est pas pour dire, une enquête de Charles Cécile au pays des conteurs. I have a dream.
Bonjour, c'est Charles Cécile. Au cœur du parc naturel de Brière, il est un drôle d'endroit. Mi-corps de ferme briéron, myriade marocain. La Milonga. Ici, l'on trouve des poules, des livres et deux passionnés de tango. C'est une chambre d'hôte tenue par un grand voyageur et sa femme. La conteuse Angèle Goluchot y a été reçue récemment lors d'une résidence de création. Angèle a fait la connaissance de Éric Millet, le maître des lieux, écrivain, voyageur. Tiens, toi qui es conteuse, peut-être que ça t'intéressera, il lui a dit en lui offrant un livre. Ça parle d'anti-récit. D'anti-récit ? Et voilà Angèle Goluchot plongée dans la correspondance d'un voyageur du désert et d'une psychologue clinicienne, professeure en sciences de l'éducation. Cette fois-ci, nous n'allons pas à la rencontre d'un conteur, mais d'un anti-raconteur qui se racontera par petites touches.
La première fois que je suis venue d'ailleurs, tu m'as donné ce livre-là qui s'appelle « Traces de vie, de l'autre côté du récit et de la résilience », qui est un livre préfacé par Boris Cyrulnik et que vous avez écrit à deux, c'est un dialogue ?
Oui, c'est un échange.
C'est un échange.
C'est un échange de courriel,
c'est ça.
En l'occurrence.
Toi et Martine
Lanibel,
qui est toujours psychologue, clinicienne,
professeur en sciences de l'éducation, ouais.
Ouais, c'est ça, à Nantes.
Et qui travaille sur les histoires de vie en formation.
Et là, quand on parle d'histoire de vie, on parle d'outils thérapeutiques.
Oui,
d'outils de
oui. Ouais, notamment. Notamment ou de
c'est
formation.
Pas du reportage.
Non, pas du tout.
Oui.
En l'occurrence, quand quelqu'un raconte sa vie, souvent il s'auto-guérit. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le fait de pouvoir se remémorer des souvenirs, de les placer dans un contexte et de pouvoir se les entendre dire, à un moment donné, avec toutes les limites que ça peut. Cadré de croire à ses propres histoires.
Et donc vous avez entamé là-dedans un dialogue autour de cette notion-là, de raconter, se raconter, sans doute du réel et de la fiction, du temps.
Tout est parti d'une exposition photo que j'avais fait. Alors, la chose était simple. Moi, j'étais un garçon photographe, plutôt nomade, c'est-à-dire plutôt voyageur. Prendre des photos un peu partout, à différentes heures, comme je fais un peu le tour du monde, la notion de temps, déjà, n'avait pas vraiment de sens pour moi. Je ne couchais jamais au même endroit, etc. Je ne voyais jamais les mêmes personnes. J'étais un garçon. Il fallait que je trouve une fille plutôt sédentaire et plutôt casanière, on va dire.
Photographe donc, quand même ou...
Oui, si possible. C'est-à-dire que, bon, capable de produire de l'image assez rapidement. Pas besoin de rapprendre ce qu'est un cadrage, etc. Mmh. Mais pouvoir essayer, sous cette contrainte de temps et d'espace, de pouvoir dire, voilà, comment je fais pour faire du beau maintenant avec quelque chose qui enregistre ce que je vois. Ou ce que je ressens, puisqu'un photographe, c'est plutôt quelqu'un qui enregistre ce qu'il ressent que ce qu'il voit. Il n'y a que les photographes amateurs qui pensent qu'on essaye de mettre en image ce qu'on voit. On ne met pas ce qu'on voit, ça serait trop simple autrement. Donc, il s'avérait que j'ai une personne que j'ai rencontrée comme ça. Le 28 décembre 2007, on a pris un calendrier des PTT. Et on s'est dit, on va faire une photo par mois, pendant
une
un an.
Par mois.
Non, attends. On a fait 49 photos, une par semaine, pratiquement. Hein. Une par semaine, pendant un mois, à des heures précises, à des dates précises, à des heures précises. Ça, c'était la contrainte de temps. Donc, on a pris le calendrier. Alors, on s'est amusé. Le 8 janvier, c'était la Saint, Glinglin,
avec les décalages
etc.
horaires, ou bien comment ?
Non, on a pris le temps universel. D'accord. Il fallait qu'on ait un référent.
Oui, c'est ça.
Ça, c'était la première contrainte. La deuxième contrainte, c'était de dire, voilà, j'ai une minute pour la prendre. C'est-à-dire, donc, je la prends où je suis. Ça, c'était la contrainte d'espace. Et la troisième contrainte, elle était de dire, voilà, je vais écrire une toute petite ligne, un peu comme le haïku japonais. C'est-à-dire, j'écris ce que je ne peux pas mettre aussi sur la contrainte. C'est-à-dire, je dois écrire sur le moment. Alors, on verra. Je pense qu'elle, par la suite, elle a dû réécrire. Mais bon, moi, je n'ai pas réécrit. C'est-à-dire, c'était du jet. C'était du truc, du brut, quoi. On ouvre le robinet, ça coule, c'est coulé, c'est terminé, c'est la tache d'encre, quoi. On ne peut pas revenir dessus. Et voilà. Et on ne s'est pas revus pendant un an. Et quand on a exposé nos clichés, avec nos trois petites lignes sous chaque photo, Martine Lalibelle, qui passait par là, a regardé cette exposition... Et puis s'est rendu compte qu'à travers l'exposition, elle apprenait beaucoup plus de nous. Et ça venait prendre un peu à contre-pied tout le travail qu'elle faisait pour amener les gens à écoucher d'un récit qui soit porteur, soit formateur.
Pourquoi le contre-pied ?
Dans la mesure où il n'y avait pas... C'était un récit sans récit. C'est pas un récit, mais on en apprend plus sur vous. On en apprend plus sur vous en peu de temps, sans vous montrer vous. On en apprend plus sur vous. Donc, ça l'a intéressé de savoir quels étaient les mécanismes qu'on avait utilisés à notre insu, en fait, sans savoir.
Parce que tu n'avais pas cette idée-là.
Ah, pas du tout.
Du tout.
Non, moi, ce qui m'intéressait, c'était de regarder le résultat, c'est-à-dire d'avoir une action sans savoir ce que ça pouvait donner. Moi, ce qui m'intéressait, c'était savoir est-ce qu'on arrive à créer de l'esthétique sous la contrainte. D'accord. C'est-à-dire est-ce qu'on arrive à créer quelque chose sous cette contrainte de temps et d'espace ?
Oui, tu n'avais pas l'idée de raconter quoi que ce soit.
Ah, pas du tout. La seule chose dont j'étais sûr, par contre, enfin, dont j'avais le sentiment...
Même en regardant les photos de la personne avec qui tu avais fait ça, qui du coup était forcément... Tu as un autre, là.
Alors, la seule chose que je pouvais voir, c'était que je ne pouvais pas prendre les photos qu'elle prenait.
Ah. Oui.
Je n'aurais pas pu les prendre.
Déjà, oui.
Mais... Ça, c'est pas parce que tu fais ce constat-là que tu as l'idée de raconter quelque chose. Mais la seule chose que je pouvais faire, c'était simplement que ça renforçait mon...
Quand même quelque chose de toi.
Oui, voilà. Mais il n'y avait pas de dire on va raconter un an de ma vie, quoi. Ou raconter, comme les gens qui se photographient tous les jours à la même date depuis 10 ans et qui passent leur truc en accéléré sur, enfin tu sais, tous ces clichés, etc., tous ces travaux qui ont été entrepris déjà depuis quelques années maintenant.
Et c'est ça que tu as nommé anti-récit ?
Ça a découlé de ça. À un moment donné, moi, j'ai sorti un petit bouquin sur cette expo-là. Et puis, je l'ai dédicacé pour Martine en paraphant, en marquant, tiens, pour Martine, cet anti-racontage de l'année 2008, etc. ralenti ne vient pas contrecarrer.
C'est ça, j'allais te poser cette question-là juste après. Ouais. Anti, ça ne veut pas dire que...
Non, non, ce n'est pas contre le racontage. Non, non, pas du tout. Non, non. Mais ça vient d'un truc très con, c'est qu'à un moment donné, moi, j'en avais marre qu'on me raconte des histoires.
D'accord.
Bon, moi, quand je lis des trucs très techniques. Je ne lis pas de romans. Ça m'emmerde, les romans. Ça m'emmerde. J'éprouve pas le besoin qu'on me raconte des choses. J'ai plutôt l'envie de continuer à fabriquer. Donc... C'est un peu pour ça que j'ai fait ce petit pic en disant bah ouais, bah toi tu passes ta vie à faire raconter les gens. Et je me dis bah voilà, là t'en sais plus, mais on n'a rien raconté, quoi. Alors effectivement, maintenant avec un peu de recul, on s'aperçoit qu'on a raconté énormément, sinon plus que si on avait dit voilà, on a pris la plume au mois de janvier, moi je suis parti là, et il faisait beau, et patati, et patata, et j'étais comme ci, et j'étais comme ça, et là je me suis dit que je vais peut-être... Donc ça a généré, à partir de cette exposition-là, donc un échange sous forme de courriel, dans lequel Martine m'avait envoyé des comptes rendus de conférences qu'elle avait données, notamment avec Cyrénique, sur la résilience et sur et tout ça. Et puis progressivement, on a... tisser une trame non tissée, justement, puisqu'en fait, on voit bien d'ailleurs sur le conte Peul que je suis allé voir et dont tu étais la conteuse il y a peu de temps, qu'on a toujours quand même sur ce type d'épopée une verticalité, enfin au moins une linéarité. Et ce qui est aussi un déterminant d'une histoire, hein, du racontage. Et donc, là, moi, j'étais dans le désert au moment où elle m'a envoyé ce petit courriel. Et puis, ben, moi, j'ai fait la parallèle avec ce que je voyais, c'est-à-dire, en fait, je voyais des gens qui, effectivement, n'avaient pas spécialement de racines, au sens dans lequel on peut les imaginer, c'est-à-dire de racines territoriales ou de schémas linéaires de leur existence. Et plutôt, une espèce de patchwork, une pensée rhizomateuse, comme pourrait le dire Deleuze, ou une pensée en archipel, comme pouvait le dire Théodore Monod, c'est-à-dire à un moment donné, où maintenant, tout ce qu'on appelle les e-cloud, les espèces de rapprochements nuageux, qui sont des trucs très mathématiques, cosmiques, ou tout ce que tu veux, le nomade, il tisse pas. Mais ses limites sont fortes, à l'inverse.
Préciser.
Bah, les limites, c'est les limites du territoire, c'est les limites de la faim, de la soif, de l'herbe qui va pousser pour donner à manger à ses brebis, qui vont déterminer ses parcours, etc. Mm. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas... On est sur la contrainte en permanence. Les nomades sont aussi des conteurs. On a mille exemples les Peuls. S'il y a bien des nomades, s'il y a bien les Peuls sont même plus nomades maintenant, aujourd'hui, dans le Sahel, que n'importe quel Touareg, donc ça ne veut pas dire grand-chose, mais ou population berbère qui ne sont pas forcément des Peuls, etc. Les Peuls sont des gens véritablement nomades, et transhumants, ils continuent à l'être, etc. Donc là, il y a une vraie tradition de conte qui, à la limite, n'est pas forcément très linéaire dans la tradition. C'est-à-dire, les mecs, ils rajoutent un peu de tout ce qu'ils veulent. Actuellement, je suis sûr qu'il y a des radiocassettes qui doivent se rajouter dans des contes, des matières plastiques, des choses comme ça qui se rajoutent sur des contes soi-disant traditionnels. Puis les mecs, ils s'en foutent, parce que c'est pas très grave. Je pense que quand même, la tradition, c'est quand même ce qui rend idiot, c'est quand même bien ça. C'est quand même un truc qui rend idiot.
Tu veux dire dans le sens reproduction.
Mais c'est-à-dire que si ton grand-père a fait des conneries, tu refais la même connerie, quoi. C'est-à-dire si ton grand-père, tes conteurs étaient conteurs de père en fils depuis trois générations, si ton arrière-grand-père disait déjà des conneries, tu répètes les mêmes conneries, quoi.
C'est ça.
C'est le problème de la tradition. Et ce qu'on a voulu faire, nous, dans notre exposition, etc., prenant des moyens, etc., d'autres, c'était de dire, ben voilà, nous, on a nos limites sont fortes. À l'intérieur, on peut vous raconter une histoire, mais nos limites sont fortes. C'est de l'antitissage, c'est de l'apprentissage, c'est... Mais tu sais, tu connais tes limites. Tu connais les limites. Et donc tu ne te réfères pas à ce qu'il y a avant, tu n'essayes pas de tendre vers quelque chose qui soit le prolongement ou la... Il faut ramener vers le centre, en gros. C'est-à-dire qui je suis, moi, pour raconter ça ? De quel droit je le fais ? Venez voir. Et je pense qu'un conteur, quand il arrive justement à drainer du public, bah, c'est parce qu'il est là. Et c'est lui. Ils ne viennent pas écouter son histoire. Ils viennent l'écouter lui. C'est pour ça aussi que quand les nomades se racontent des histoires au coin du feu, ils sont capables de raconter n'importe quoi. Ils sont capables de parler des pays où ils ne sont jamais allés. Même mieux que s'ils avaient été dans ces pays-là. C'est-à-dire que quand je discutais avec certains nomades touaregs du Hoggar, par exemple, dont la famille était originaire d'Oubari, en Libye, c'est-à-dire en gros à 2500 km de là, quand ils me décrivaient le paysage de d'Oubari, où ils n'avaient jamais foutu les pieds, mais où ils savaient tout de ces territoires, ils savaient tout des dunes, de la manière de passer d'une dune à l'autre, de la manière d'aller sur de tel endroit à tel endroit, parce qu'ils l'avaient entendu, ça avait été digéré depuis des générations et des générations. Quand un jour, je suis allé vraiment dans ces lieux, et que d'un seul coup, je me suis remémoré la manière dont ces gens décrivaient le paysage et les ambiances, etc. C'était exactement ça.
Tu t'es dit, c'est ça.
Ils n'avaient jamais foutu les pieds à cet endroit-là. Mmh. Et en fait, c'est pour ça que je disais, la limite est forte. Le désert s'arrête toujours quelque part. Il y a toujours la limite du monde. Il y a toujours une limite. Et c'est parce qu'il y a une limite.
Les histoires-là servent à se repérer dans l'espace. Tu apprends le territoire comme ça, par exemple.
Voilà. On parlait du tissage tout à l'heure. Je peux aussi faire la parallèle avec les tissages berbères. C'est une chanson, les tissages berbères. Ce n'est pas autre chose qu'une chanson. C'est-à-dire que la femme, puisque chez les berbères, ce sont pratiquement que des femmes qui tissent. Hein. Ce n'est pas la même chose au Pakistan ou en Iran, mais... ou dans certains endroits de la Chine, là, dans les pays berbères, ce sont les femmes qui tissent, et les femmes tissent très jeunes. Donc il y a deux types d'histoires racontées, parce que là, on est vraiment sur du racontage, là, hein, mais concrètement, c'est-à-dire la femme va raconter l'histoire de sa tribu, parce qu'en général, ou de son village d'origine.
Elle la chante. Elle raconte avec des mots, elle la raconte avec le.
Alors, elle la chante pour se souvenir de ces brins de laine. Elle va savoir si c'est brin de jaune, jaune, bleu, bleu. C'est une partition. Hein. On a vraiment le pendant avec une partition classique de musique.
Tu peux lire la tapisserie.
Alors, déjà, tu peux.
Comme une partition, tu pourrais la lire.
Oui, tu peux la lire. Et elle la sait. Parce qu'elle l'a appris de sa mère. Là par contre, on est dans la tradition totale. Hein.
Pas d'invention.
De la transmission, là. Attention, il y a une deuxième lecture. Donc, en général, les femmes se déplacent d'un village à un autre village. C'est-à-dire son mari... Si on reprend dans le truc classique avec le moussem où les fiancés se joignent et se séparent pendant un an, au bout d'un an ils reviennent, si ça marche toujours, etc., ils restent ensemble. Le mec, si je veux faire la carte postale, on monte la femme sur le mulet et on s'en va dans la montagne, on change de village. Donc la femme, quand elle arrive dans ce village, elle a le patrimoine pictural de tissage de sa tribu, de son village d'origine qu'elle maîtrise. Et puis, elle a aussi...
Elle a commencé à tisser déjà ou pas ?
Ah oui, forcément, oui. Puisque les jeunes filles commencent vers l'âge de 6-7 ans. Enfin, un peu moins maintenant, parce que fort heureusement, ils vont à l'école, pour la plupart quand même. Enfin, j'espère, encore. Et donc, elle va commencer à apporter ce tissage patrimonial de son village. Elle va y incorporer aussi celle de son mari. Donc, elle va raconter des choses.
Dans le métissage.
Pas tout à fait. Parce qu'à l'intérieur de ça, elle va raconter ses états d'âme. Mais ça va être secret. Donc, il y a des choses qui sont dans la lecture du message. Que tu ne peux pas lire. Donc, c'est cette dimension... Quand bien même tu as du tissage, là pour le coup on est vraiment sur la tradition, c'est-à-dire je répète, on m'a appris à tisser comme ça, je le fais, etc. Mais il y a une passe d'improvisation qui est énorme. Et c'est là la personnalité de la tisserande.
Le conteur Ahmed Bouzine, fragment d'une épopée touareg.
Il a regardé là-bas dans le désert, c'était trois hommes, trois arpenteurs, trois hommes qui avaient décidé d'abandonner l'humanité à son sort. Ils chantaient à tue-tête pour le ciel, les étoiles, les grains de sable qui ne sont que le minuscule reflet de notre âme. Leur trace était droite, elle arrivait devant la tente d'Ahri Gulan. Il leur a donné le plus grand cadeau de la vie, l'eau. Il les a invités à pénétrer à l'intérieur. Et là, il a confectionné le premier thé. Vous savez, celui qui est âcre comme la mort. Quand la mort est dans la tente, personne n'a le droit de parler. Il en a fait un second. Celui-là a été suave comme la vie. La vie est une chose trop courte, il n'y a pas lieu d'en rire. Le troisième, lui, était doux comme l'amour. Et quand l'amour est dans la tente, toute parole est autorisée. Les trois hommes se sont présentés. Je suis un devin. Celui qui était assis à côté de moi est un marabout. Le troisième est un homme expert dans les sciences religieuses. Et si tu veux, Seigneur, nous pouvons te donner ta destinée. Ma destinée, a dit Ahri Gulan. Je suis né Seigneur et mourrai Seigneur. Ça, c'est la première des vérités. Mais puisque vous êtes mes invités, faites. Le devin a écarté ses doigts et a commencé à dessiner des cercles concentriques. D'une poche, il a sorti de petits noyaux de date qu'il a lancés à l'intérieur de ses cercles concentriques. Un long moment, il s'est penché dessus. Et quand il fut satisfait, il les a ramassés un par un et a effacé le sol. Il a regardé l'homme assis à côté de lui, le marabout, qui a fait exactement la même chose avec ses doigts. Mais à la place des noyaux de date, celui-ci a sorti des petits cailloux blancs. Il s'est penché dessus, et quand il fut satisfait, il les a ramassés. Il ne restait plus que l'homme expert dans toutes les sciences. Celui-ci a mis bien plus de temps que tous les autres. Quand il eut fini, c'est le devin qui a parlé. Le livre de désert a parlé. Seigneur, il va t'advenir un neveu. C'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? C'est exact, a dit le marabout. Le devin t'a donné une bonne nouvelle, mais moi je t'en donnerai une mauvaise. Ce neveu, il va te tuer et prendre ta place. C'est exact, a dit l'homme expert dans les sciences religieuses. Non seulement il va prendre ta place, mais tu ne pourras même pas le saisir par le bout du doigt. Vous êtes rentré dans ma tente pour me dire des balivernes de cette sorte. Quittez ce lieu immédiatement, espèce d'errant. Les hommes se sont levés calmement, ont quitté la tente et le campement. Mais à peine eurent-ils mis un pied dans le désert, ils ont repris leur chant, comme si de rien n'était. A regardé disparaître dans le lointain tels des papillons diaphanes. Il a regagné aussitôt sa tente. Ces hommes avaient laissé là la graine du doute. Ils étaient des hommes de vérité, des maîtres du sens. Si neveu il devait lui advenir, a-t-il réfléchi, ce serait de la part de sa sœur Tambayat. Et dès cet instant, il s'est rapproché de la tente de sa sœur, lui posant quelques questions anodines. Ma charmante sœur, aurais-tu une bonne nouvelle à m'annoncer? De nouvelles, mon frère, je n'en ai point. Pas de nouvelles? Bonne nouvelle. Chaque jour, les questions se faisaient de plus en plus pressantes et de plus en plus précises. Ma sœur, ne sens-tu rien monter à l'intérieur de toi? Oh non, je ne sens rien. Mon corps est bien. D'ailleurs, j'aimerais te dire qu'un enfant serait le bienvenu. Un enfant? Sens-tu un enfant? Oh non, loin de là. Qu'il ne savait pas, ce que sa sœur ne savait pas, c'est qu'effectivement, à l'intérieur d'elle, il y avait un enfant qui grandissait. Mais l'enfant était déjà doué d'intelligence. Il s'est débrouillé pour que sa mère ne soit pas trop en état. Et il s'est débrouillé pour accoucher le même jour que l'Iklan de Tambayan, son esclave. Deux cris se sont confondus en un. Les accoucheuses les ont fêtées. Elles sont allées chercher toutes les autres femmes. Les autres femmes partageaient la joie de ces deux femmes, de ces deux nouvelles mères. De la bouche des femmes, c'est passé aux oreilles des hommes, et des oreilles des hommes, c'est arrivé aux oreilles du Seigneur. Gloire à toi, Rigoulan, tu viens d'avoir un neveu. Un neveu? Son visage s'est figé. Il a eu une peur si profonde que son cœur s'est mis à battre si vite, que ses mains se sont mises à transpirer. Il a vu les femmes qui emmenaient sa sœur ainsi que son esclave. Et il a vu aussi qu'entre Takefendest et Takamendest, les deux piliers centraux de la tente, un berceau était en train de se balancer avec un enfant dedans. Il a pris tout son courage, s'est levé. Il a pénétré dans la tente et l'enfant qui était là, il n'a même pas eu un sentiment pour lui. Il s'en est saisi, est allé dans le chemin inverse de tout cet attroupement. Il a pénétré à l'intérieur du désert. La seule chose que je puisse vous affirmer, c'est que cet enfant n'a jamais parlé notre langage, simplement celui de l'au-delà. Années, Arigulan était fier d'être le chef des gens de la trace des Relatrar. Et pourtant, un jour parmi les autres jours, la graine de doute a germé. C'est en observant son fils, car son fils avait pour esclave le fils de l'esclave de Tambayat. J'espère que vous me suivez, mais il avait remarqué que cet enfant-là, bien plus jeune que le sien, avait l'air bien plus débrouillard, bien plus malin et plus malicieux. Il se questionnait sans cesse, ai-je réellement tué mon neveu, ou mon neveu est celui qui se fait passer pour cet esclave? Il voulait en avoir le cœur net. Et le lendemain matin, il s'est levé très tôt. Il a ouvert son coffre de seigneur. Là, il en a extirpé un sac de sabots morts. Les sabots morts, ce sont des jeux d'enfants, puisqu'on les appelle les peuples de la trace. Dès le plus jeune âge, on apprend à ce que les déserts ne soient qu'un livre que l'on déchiffre sans arrêt. Avec ce sac, il a quitté le campement en marchant en direction du nord. Et il est arrivé dans un vallon très très vert. Il a fouillé de fond en comble et il a vu que personne n'y avait mis pied, que l'herbe n'avait pas été broutée. À cet instant, il a plongé la main dans le sac et s'est donné à cœur joie. Il a fait des traces de toutes sortes, des empreintes, les mêlant les unes aux autres. Quand il fut satisfait, il rebroussa chemin. Mais sur le champ, il convoqua son fils. « Tu vas aller voir ma sœur Tambayat et tu vas lui réclamer son esclave. » Le fils s'est exécuté. L'esclave est arrivé, il lui a dit, « Seigneur, pourquoi dois-je venir dans ta tente? Tu vas travailler pour moi durant ce jour. Tu vas prendre mon fils ainsi que le tien. En direction du nord, vous allez marcher. Quand vous aurez trouvé un vallon bien vert pour faire paître nos chameaux et baraquer ceci, tu reviendras. » Comme il n'y a qu'un seul nord pour tout nomade, ils ont marché, marché. Dans le même vallon, ils sont arrivés. Ils se sont dispersés et en un lieu donné, ils se sont donné rendez-vous. Sur le chemin du retour, personne n'était d'accord, car chacun avait son interprétation de ce qu'il avait vu sur le sol. Il n'y eut point de négociation possible entre eux. Ils sont arrivés devant le Seigneur qui les a questionnés un par un. « Mon fils, qu'est-ce que tu as vu ?»« Ce que j'ai vu, moi ?»« C'est un vallon très vert, mon père. Par terre, il y avait des traces de pas humains. »« Des traces de pas humains ?»« Il y a des Touaregs qui sont dans les parages. »« Ce n'est pas un endroit où il faudrait amener notre troupeau. Et toi, femme, moi, ce que j'ai vu, c'est un vallon très vert, comme le décrit ton fils. Mais voilà, ces traces, moi, je les déchiffre comme celles d'animaux. Les pâturages ne nous appartiennent pas. Des gens sont allés avant nous, il faut leur laisser. C'est faux, a dit le dernier. Moi qui ne suis qu'un fils d'esclave, moi qui me prénomme Adelazeg, ce que j'ai vu par terre est bien bizarre. Les traces de l'homme étaient celles d'un homme de haut rang. De la façon dont il enfonçait les talons dans le sol, ça ne pouvait être qu'un seigneur. Et puis les animaux, ils devaient venir du pays des génies. Il y en avait un qui était moitié chamelle, moitié gazelle. Un autre qui était moitié chèvre, moitié ânesse. Un autre qui était moitié chameau et moitié vache. La mère et le fils ont ri, mais Arigoulane, lui, a vu que cet enfant-là était bien intelligent pour son jeune âge. Et le doute s'est effacé. Ce n'était pas un esclave, c'était son neveu. Et maintenant, à chaque fois qu'il le voyait, il y avait cette terrible phrase qui revenait. Il t'adviendra un neveu qui te tuera et prendra ta place. Tu ne pourras même pas le saisir par le bout du doigt. Ça hantait ses jours et ses nuits. Et un beau matin, n'y pouvant plus, il a décidé de le tuer. Quelle est la façon la plus simple de tuer quelqu'un dans le désert?
Je suis toujours au gîte La Milonga avec Eric Millet. J'avais préparé des questions que j'avais essayé de ranger, de classer. Je tente de suivre un fil, mais ce diable d'homme prend des chemins de traverse sans cesse. Il s'échappe, il me sème. Alors on parle de photo, de philo, de géo, de tissage, d'apprentissage, de métissage, de conte et d'anti-racontage, de traces de vie, de racines, de rhizomes et même d'iclaoui.
J'aime pas trop qu'on me raconte des histoires, moi.
Dans le sens qu'on te raconte des bobards, tu veux dire?
Comment dire, moi j'aime bien ce qui est beau, si l'histoire est belle. C'est-à-dire que je vais l'apprécier en tant qu'œuvre d'art, on va dire. En tant qu'objet, œuvre d'art. Hein, c'est-à-dire, ben voilà, parce qu'à un moment donné, ça va me faire je vais avoir des références dans ce truc-là, que ça va me plaire, et voilà. Qu'on me raconte une histoire, etc., si c'est dénué d'esthétique, de truc. Bon, ben, je m'en fous, c'est pas grave, quoi. C'est la vie des autres, quoi. Tu vois, ça veut pas dire que je me fous de la vie des autres, mais je me fous qu'on me la raconte.
Oui.
C'est-à-dire, si j'aime autant aller chercher de l'info moi-même, c'est comme les mecs que tu reçois au téléphone qui te disent eh, monsieur Millet, vous voulez pas gagner 2% sur votre facture d'électricité si vous signez. Je m'en fous. Si j'ai besoin de l'info, je vais aller la chercher. J'ai pas besoin qu'on me téléphone chez moi pour pouvoir me vendre quoi que ce soit. Donc là, c'est un peu la même chose. Donc je pense que quand les gens vont aller chercher des histoires, c'est qu'ils ont besoin de merveilleux. À un moment donné, ils sont en manque de merveilleux. C'est-à-dire, leur vie n'est pas merveilleuse. Bah, je pense que ça doit marcher un peu comme ça. Donc moi, je préfère travailler sur moi-même en disant « je vais essayer de me fabriquer du merveilleux tous les jours ». C'est peut-être prétentieux hein, de dire ça. Mais au moins, je vais fabriquer quelque chose d'unique. Quoi. C'est la seule chose que je peux faire. Et la seule chose sur laquelle je peux agir, c'est ma propre vie. Et encore, c'est déjà difficile parce qu'elle est soumise à des pressions extérieures, des trucs que je contrôle pas forcément. Donc, mais au moins, je vais essayer d'agir dessus. Et puis, si j'y arrive pas, c'est là peut-être que j'ai besoin d'aller chercher des histoires. C'est-à-dire, alors ça peut être soit du divertissement, soit c'est la contemplation d'un objet esthétique. Comme ça fait du bien d'aller visiter un musée, d'aller à un concert où on trouve que la musique est belle, etc. C'est parce que la cruauté de la vie est telle, la pauvre dame, qu'il faut bien aussi qu'on verse dans ces divertissements, pour le coup, au bon sens du terme, ce qui est divers. Oui, puis c'est. Il y a un moment donné, à force de répéter les choses, c'est toujours pareil. Quand tu répètes des choses, ça devient vrai, quoi. Et donc d'être capable de se réapproprier cette réalité qui, pour le coup, paraît être commune. Donc, la réalité, c'est la nôtre avant d'être celle des autres. Donc, d'un seul coup, cette réalité qui paraît être universelle ou commune à tout le monde, C'est bien aussi, c'est ce qui crée du lien. Oui. Pour le coup, c'est la même pour tout le monde. Oui. Donc, qu'on en parle, c'est pour ça aussi qu'on... je pense qu'à un moment donné, tu vas adhérer à tel ou tel mouvement parce que tu sens qu'il y a une espèce de... Ça va fédérer des avis. Le conte a ce pouvoir de pouvoir rassembler. Oui. L'histoire va pouvoir rassembler...
Mais elle est absolument fausse.
Ah ouais, non, mais que ça soit du pipeau, ça, encore une fois, on vient pour le conteur. Donc, si c'est faux, c'est pas très grave. C'est le problème de la croyance. Il y a quand même un certain... dans l'histoire, et encore actuelle, on a quand même un certain nombre d'histoires, on sait même pas si c'est vrai, et on continue à y croire, quand même. C'est pas pour dire, mais... Et non seulement on continue à y croire, mais on continue à les imposer.
À les alimenter,
à essayer d'en trouver des exégèses et des trucs et des tout ce qu'on trouve. Mais quand même, et on sait très bien qu'il n'y a pas la moitié de vrai. Tout ça, ça a été fabriqué à un moment donné, quelquefois plusieurs siècles plus tard. Donc ça, quand même, c'est prégnant parce que c'est une réalité, là, aujourd'hui.
Ça a des effets actifs.
Voilà.
Il y a quand même là-dedans des principes actifs.
Camino del monte hacia la mar.
Dans cette émission, la parole singulière d'Éric Millet invite forcément au questionnement. Est-ce qu'on va à la rencontre des histoires de l'autre pour mieux se comprendre et se définir soi-même? Est-ce qu'on va chercher chez l'autre le merveilleux que l'on n'est plus capable de percevoir en soi? Est-ce que l'on impose quelque chose à l'autre avec une histoire? J'ai comme l'impression que cette enquête va aussi intéresser les conteurs, qu'elle renvoie à des questions fondamentales de légitimité, d'honnêteté, d'exigence morale. Raconter n'est peut-être pas une activité si innocente.
Ouais, mais en fait, je me demande moi si ce côté conteur, enfin, bon, il y a eu une mode postcoloniale quand même, hein, de l'arbre à palabre, le machin, etc., dans lequel on a drainé un paquet de contes africains, revus, et je pense que ça a essaimé sur nos racines régionales.
Ça, c'est sûr.
Je pense qu'on s'est redécouvert des racines régionales parce qu'on n'avait plus d'autres choses à aller chercher chez les. C'est quand même très très lié à la colonisation et à espèce de ce manque de merveilleux, aussi, ouais. Ce fantasme du pays étrange et du monde de l'enfance. On a quand même infantilisé pendant quand même un certain nombre d'années nos gentilles petites colonies, quand même. Hein. Donc je pense qu'aussi c'est. Le monde de l'enfance n'est pas très loin dans le conte. Et c'est aussi pour ça... Enfin, la redécouverte du merveilleux, elle est aussi...
On a transporté par les histoires aussi des idéologies nauséabondes.
Non seulement, mais des clichés surtout.
Des clichés aussi.
Moi, quand j'entends encore des conteurs parler des surtout des conteurs sur le désert, mais c'est des fois, j'éteins la radio parce que thé à la menthe, etc. Déjà, le thé à la menthe dans la partie sud Sahara, il est arrivé en 1958. Déjà, ça casse. C'est arrivé en Afrique du Nord, le thé à la... En fait, c'est les Anglais qui ont amené le thé en Afrique du Nord. Hein. En 1854, il y avait une pénurie. Ils stockaient à Gibraltar tout ce qu'ils pouvaient, parce qu'à cause de la guerre de Crimée, ils ne pouvaient pas l'écouler. Donc, les courtiers juifs ont commencé à prendre leurs petites valises et puis les distribuer du thé à droite à gauche. Donc, il n'y a rien de traditionnel là-dedans. Ça, c'était complètement inventé, mais il y a plein de trucs comme ça. Hein. Et le Touareg, il n'est jamais en mobilette et les cheveux frisés sans son chèche, quoi. Alors que, bon, il y a quand même un paquet de Touareg noirs avec des cheveux frisés qui portent le chèche un petit peu... alors, je ne dis pas que ça n'a pas de... Attention, hein. Mais je ne dis pas que ça n'a pas de réalité, hein, de voir les gens,
de
etc. Clichés. Mais on véhicule des clichés et des rapports aussi... Enfin, les gens qui font la galette dans le sable, c'est les légionnaires français qui l'ont amené aussi en Afrique. Quoi. Donc, la question à se poser, c'est qu'on n'est pas obligé d'avoir un reflet de la réalité. Donc, si j'ai pas de les casser non plus l'image, mais moi j'entends encore beaucoup de bêtises, quoi. Et aussi par des conteurs africains eux-mêmes. C'est pas parce que tu es africain que tu connais mieux l'Afrique que quelqu'un qui va avoir étudié, etc. C'est pas parce que. Enfin, c'est. Ouais, pas de loi du sol, la loi du sang, encore pire. Donc, je crois que là, faut se méfier un peu de tout ça, quoi, quand même. Surtout pour quand on a ce côté un petit peu condescendant ou angélique du rapport au conte africain, par exemple. Ça, c'est terrible, ça. C'est pour ça que c'est intéressant dans le conte que j'ai entendu sur l'histoire de Guénaud. Ce qui est intéressant, c'est que c'est intemporel. Donc c'est une histoire de merveilleux. Ça pourrait se passer dans n'importe quelle planète, dans n'importe quel monde. Moi, je préfère ça.
Que de la reconstitution,
soit historique, soit l'herbe à palabre avec les vieux dessous qui racontent des histoires. Ça ne marche pas comme ça. L'Afrique sera le continent le plus peuplé, où il y aura le plus de villes, la plus grande densité de population dans 20 ou 30 ans. On sera sur des systèmes hyper urbains. Et ça n'aura plus de résonance, tout ça. Donc,
Tu crois que les gens, ils se racontent des histoires? Ils se racontent des histoires pourquoi? Pour se comprendre, pour se reconnaître?
Pour se comprendre, je sais pas. Non, je pense... Enfin, pour se comprendre. Non, je pense que c'est très personnel, encore une fois. Je pense que les gens racontent des histoires pour qu'on les aime. Une grand-mère raconte des histoires parce qu'elle a besoin que ses petits-enfants l'aiment. Donc, c'est la même chose... après, il y a toute l'étude et tout le côté métier, mise en abîme de tous ces collectes d'informations, ces tournures de phrases, ces sonorités, ce travail, ce véritable travail, qui n'est pas incompatible avec le premier. Au contraire, même c'est pour ça que ça marche, c'est pour ça qu'on va voir certains conteurs et pas d'autres. Si tu restes que sur le plan technique, etc., non, je pense que...
Ninjariyam enayorillai Heriyena soniyam ayam Heriyela yoninjai. Dans un de ses campements, il a rencontré une vieille poétesse. Les poétesses n'ont de problème avec personne, que ce soit vos amis ou vos ennemis. Elles sont toujours les bienvenues. Tu recherches la trace d'Ekhel Yagaran? Je ne la connais pas. Mais dans le nord, dans la Hagar, il y a un vieillard. Il connaît la trace ancestrale des quatre grandes tribus. Marche, tu verras un feu tout en haut d'une montagne. Guide-toi à sa voix, mais attends la nuit. Il a marché en direction du nord. C'est vrai qu'en pleine nuit, il a vu un feu au sommet d'une montagne. Et il a entendu une voix. Elle lui avait dit la voix d'un vieillard. Mais on aurait plutôt dit celle d'un enfant. Arrivé au sommet de la montagne, et là il a vu un vieillard vêtu de blanc, un vieillard qui tournoyait sur lui-même, le petit doigt pointé vers le ciel. Il était étonné. Cela devait faire des heures et des heures qu'il tournait, et il n'avait pas du tout l'air d'être ivre. Lui, il y a bien longtemps qu'il serait face collée contre terre. Le vieillard a chanté, et d'un seul coup, il s'est arrêté. Je sais qui tu es, ton destin sera grand, je l'ai lu dans le livre du ciel. Je ne suis pas là pour parler de destin, vieil homme, je suis à la recherche de la trace ancestrale des Khelyagaran. Si tu attends jusqu'à demain, je t'indiquerai la trace ancestrale des Khelyagaran. Durant toute cette nuit, Adelazeg a veillé, et le lendemain matin, il avait préparé le petit déjeuner. Le vieillard l'en remercia. Si tu veux retrouver la trace ancestrale des Khelyagaran, il faudra que tu descendes jusqu'à cette ville qui se nomme Gao. Elle se trouve dans la boucle du Niger. Là, tu achèteras une chamelle rousse de 4 ans. Tu la selleras. Tu prendras la direction du nord et tu iras jusque dans la région de l'Azawag. Une fois arrivé dans cette région, tu rechercheras le puits qui appartient au Khelyagaran. Tu attendras que le soleil soit aussi rouge que ta chamelle. De ta main, tu gratteras le flanc gauche et tu regarderas le doigt qui est roi de cette main. La suite, elle t'appartient.
Éric Millet, que la conteuse Angèle Gaudichaud rencontre aujourd'hui, est lui aussi quelqu'un qui marche, entre autres dans le désert, entre autres sur les traces de l'explorateur journaliste Frison Roche. Marcher dans le désert, dit Éric Millet, produit de la fiction.
Moi, il me plaisait de faire ça pour plusieurs raisons, et notamment par rapport à Frison Roche, parce que Frison Roche est un mec quand même assez marrant, Frison Roche. C'est-à-dire qu'il a complètement rompu avec ses écrits qui étaient avant des comptes rendus d'expéditions qu'il avait fait, ou les carnets sahariens, ou des choses comme ça. Et là, il a basculé complètement dans la fiction, il est devenu son personnage dans la trilogie « Rendez-vous des scènes d'Hélène »,« La piste oubliée »,« La montagne aux écritures ». Et il est devenu, là, l'écrivain qu'on lui connaît. Donc,
et en devenant ce personnage-là, du coup.
En incarnant carrément son personnage à travers sa littérature. Et ce qui m'intéressait, c'était un peu de dresser le bilan 50 ans après, de quel rapport on peut avoir, non seulement à l'espace, mais aux gens qu'on va rencontrer, si tant est qu'on puisse en rencontrer dans le désert, et de marcher, d'essayer d'appréhender à partir de quel moment un mec va basculer dans la fiction. C'est-à-dire à partir de quel moment tu te dilues dans l'espace, notamment dans le désert. Et c'est assez drôle, parce que moi, il m'est pratiquement arrivé la même chose, on va dire. C'est-à-dire qu'au bout de 28 jours de marche, là, tu... Alors, au départ, bon, tu es dans une logique de... tu sais en gros que tu vas mettre 2 mois, 2 mois et demi de traversée. Okay. Donc tu pars déjà avec une notion du temps. Cette notion du temps, après, elle varie en fonction de ton périple. Elle varie pour d'abord, premièrement, parce que ton corps il y a une phase d'adaptation à la marche dans le désert. Après, il y a une phase d'adaptation au rythme que tu t'imposes de te lever le matin sans avoir rien d'autre à faire que de marcher jusqu'au soir, de dormir et de t'endormir en te disant que le lendemain, tu n'as rien d'autre à faire qu'à remarcher encore jusqu'au soir, etc. Donc, il y a un moment donné, tout ça, ça prend le dessus. Et puis, donc, il y a un moment donné, tu te dis, mais ça fait déjà longtemps que je suis parti alors que ça fait 8 jours. Au bout de 15 jours, tu te dis, ça fait guère plus longtemps qu'il y a 8 jours. Et quand tu arrives au 27e ou 28e jour, tu te dis, bon, à la limite, maintenant, c'est plus moi qui marche. C'est quelqu'un d'autre qui marche à ma place. Et c'est marrant parce que, alors, soit c'est de la fatigue qui s'installe, mais...
Et c'est là que tu dis que tu rentres dans la fiction.
Ouais. C'est-à-dire que alors, tu as 2 solutions. Soit tu... je pense qu'un mec comme Frison, à un moment donné, il ne devait pas s'accepter vraiment tel qu'il était. Et à un moment donné, il a besoin, et ça a été un déterminant pour lui de pouvoir exprimer d'autres choses que le propre statut de journaliste, etc. Mais il y a la fatigue qui est là. Et au bout d'un moment, tu te détaches de toi-même. Je me souviens, la fatigue, ça te permet de te regarder marcher, quoi. C'est-à-dire que tu es au-dessus de toi, tu te regardes marcher. Alors ça, c'est des moments... Hein. C'est extraordinaire, mais... Et je pense que tout ça, c'est plus ou moins lié. Donc moi, je ne suis pas basculé dans la fiction, mais j'ai essayé de sentir ce que lui avait pu ressentir à ce moment-là de l'expédition, où là, tu commences vraiment à fatiguer. Ça dure 2 mois, donc ça veut dire qu'après, il y a 1 mois où lui, il a continué avec quelqu'un d'autre, à sa place. Moi, j'ai continué, je pense que je suis resté le même. Donc après, j'ai commencé à m'interroger sur d'autres problèmes. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que l'impatience ? Qu'est-ce que c'est qu'attendre ? Donc tout ces moments-là, à un moment donné, ont complètement... ça passe dans un autre univers. Quand je suis revenu ici, par exemple, ça ne me dérangeait pas de partir à pied pour aller à Saint-Nazaire. Je savais que j'avais 3 quarts d'heure pour y aller à pied, mais ça ne me dérangeait pas. Bon, maintenant, je me suis dit, mais attends, je l'ai fait. Tu vois, les Africains font ça tous les jours. Hein. Les Africains marchent toute leur vie. C'est-à-dire, tu ne te poses pas la question, tu pars, quoi. Tu marches. Et tout ça pour dire qu'à un moment donné, au bout d'un mois, le temps n'a plus du tout la même importance. La notion d'impatience, elle est complètement gommée. Ça n'a plus de sens, l'impatience. Et que les choses arrivent. Donc tu les prends. Je les prends comme elles viennent, en fait. C'est pas du fatalisme, mais c'est simplement accepter les choses telles qu'elles sont. Et t'arrives à... t'arrives à tout faire, en fait. Que j'ai fait, c'était d'essayer de retrouver les traces des anciennes caravanes avant que les vieux meurent. Donc j'ai des enregistrements dans le désert fait avec ça, qui vont de l'or parce que c'était en Libye, puis maintenant, bon, les pauvres vieux. Et je suis assez content d'avoir fait ça, de les avoir fait raconter 2-3 bouts d'histoire là, pour le coup, sur des choses très simples, en fait, pour moi c'est important parce que ça figeait à un moment donné une partie que je sais irréversible.
Tu leur as fait raconter quoi ? Tu les as emmenés concrètement sur
En fait,
sur
moi je suis allé reprendre des anciens itinéraires qui n'avaient jamais été faits depuis 1964.
Ces itinéraires sont des cartes écrites ?
Ah non, c'est non. Y a rien, c'est tout dans la tête. Donc tant que les vieux étaient là, ils étaient capables de montrer le chemin. Et c'est marrant parce que là, depuis 64, les mecs n'étaient jamais repassés par là. Depuis 64, ils m'ont
Donc montré, ça faisait tu l'as fait quand ?
Je l'ai fait en 2007 ou 2008.
D'accord.
Ça faisait 40 ans qu'ils n'étaient pas passés. Ils cherchaient un peu, mais on a réussi à le faire.
C'est une mémoire, du coup, qui repose sur quoi ?
Ben justement, c'est ce que je t'expliquais la dernière fois. Je ne sais pas sur quoi elle repose. Elle repose que sur de la transmission. Et de la transmission orale, pour le coup, puisque là, il n'y a
mais
pas
quoi,
de carte.
Des chansons, des...
Non, non.
Des récits.
Des récits au coin du feu.
C'est ça ?
Ouais. Ils ont une géographie de l'espace. C'est descriptif, mais c'est tellement bien décrit, et c'est tellement épuré qu'à un moment donné, tu peux... Enfin, c'est une des caractéristiques du désert de pouvoir... d'être obligé, à un moment donné, d'épurer, quoi. Parce qu'autrement, c'est trop compliqué. Donc tu gardes l'essentiel. Mmh. Tu gardes l'essentiel et c'est, à mon avis, c'est parce qu'ils avaient su sur un récit garder l'essentiel qu'ils étaient capables
de passer. Ouais. Mémoriser des trajets en les parlant, ça, tu dois être super économe parce que sinon tu racontes pas. Il s'agit de trajets qui font combien de kilomètres ?
Oh bah là, on était sur 2000 kilomètres.
Ouais, c'est ça. Donc c'est pas une paille. Enfin, tu décris pas.
1600. Autrement,
et tu les as entendus ces récits ? Ils les disent encore ou pas ?
Alors, il y a des choses qui...
Par exemple, toi, tu pourrais te repérer par rapport à ces récits, avec ces récits ou pas ?
Non, pas du tout.
Pas du tout ?
Ah non, non, pas possible.
Donc, c'est des récits, pas seulement des récits, mais des récits liés à
des modes de vie, à des modes de fonctionnement, etc.
À une marche,
Oui, bien sûr.
Du concret.
Oui, il y a des choses techniques qui permettent de se repérer. Crotte de chameau, l'orientation d'une dune par rapport à l'autre, etc. Enfin, tout ça, c'est des choses techniques, ça tu peux apprendre. Mais il y a des choses que tu peux difficilement apprendre a posteriori. C'est-à-dire que t'es pratiquement obligé d'être du cru, quoi. D'être dedans, d'être né dedans, quoi.
Et donc, vous avez fait le trajet réellement, physiquement.
Oui.
Et aussi en le parlant, en le disant. Il faisait le trajet en te racontant aussi ou pas ?
Non, il raconte.
Donc ça, c'est perdu.
Ouais.
Ces récits.
Ouais. Ouais.
Wow.
Ben ouais.
D'accord.
Non, moi j'ai fait quelques interviews au feu de camp.
Mais qui sont pas des enregistrements de récits, qui sont des interviews.
Oh ouais.
Ou c'est pareil.
Non, c'est pas la même chose. J'ai pas d'enregistrement de récits. Mais c'est vrai qu'il y a tout un travail à faire sur ce côté-là. Parce que là, on sent qu'on est dans une phase où il y a des choses qui vont disparaître à jamais. Là. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'était de garder les itinéraires de ces caravanes. Mais dans la transmission, etc., là, il y a une inversion des pertes de...
Perdu. Tant pis.
C'était l'anti-récit, une heure passée en compagnie de l'anti-raconteur voyageur photographe et amateur de tango, Eric Millet. Ça se passait à la Milonga, chambre d'hôte pas loin de Saint-Nazaire, et j'espère que vous avez aimé autant que moi cette promenade en archipel dans l'univers d'Eric Millet. Les récits que vous avez entendus lors de cette émission sont les fragments d'une épopée touareg racontée par Ahmed Bouzine. Les musiques sont de Gerardo Jerez Lecam dans son album Tango Imaginario. À bientôt.
I have a dream. A dream. A dream.